Bonjour à tout le monde. Il y a quelques mois, nous avons organisé une soirée conférence sur des questions éthiques. L'invité était un médecin qui s'appelle Vincent Rébillet-Borgelat. Et au cours de cette soirée, il a fait allusion à un livre qu'il avait écrit, qui allait sortir. Et il est sorti il y a une semaine. Donc ça s'appelle « Petit manuel d'éthique pratique ». Je l'ai déjà lu. Et si ça vous intéresse, vous pouvez commander ça ou trouver ça n'importe, dans n'importe quelle bonne librairie évangélique. Donc, si vous avez vu ce frère et vous êtes resté sur votre faim, eh bien, achetez ce livre. Et si vous n'avez pas entendu ce frère, achetez quand même ce livre. Jonas débarque à Sonora. Il y a 10 jours, le jeudi soir, on a vu Jonas dans un bateau. Jonas, chapitre 1. Il avait décidé de fuir loin de la présence de Dieu, loin de la parole de Dieu. Dimanche dernier, on a vu Jonas dans un poisson. Jonas, chapitre 2. Et au cours de ce voyage dans le ventre du poisson, il a décidé de revenir à la présence de Dieu et de revenir à la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire Jonas chapitre 3, et Jonas est dans une ville, et pas n'importe quelle ville, la ville de Ninive. Et vous avez remarqué que Jonas 3 commence de la même manière que Jonas 1, sauf avec une différence notable. Dans Jonas 1, Dieu dit à Jonas, lève-toi et va là-bas. Et Jonas a désobéi. Tandis que dans Jonas 3, Dieu dit, lève-toi, va là-bas. Et cette fois-ci, Jonas a obéi. Une grande différence entre l'obéissance et la désobéissance. Alors je lis Jonas, chapitre 3, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne les fit pas. Jonas, chapitre 3. Pensons d'abord à la ville de Ninive, parce que Dieu lui a dit, va à Ninive. Alors Ninive, à l'époque, était la capitale de l'Assyrie, non pas de la Syrie, mais de la Syrie, L'Assyrie. Ce pays n'existe plus. Mais ce pays, aujourd'hui, si on mettait ça sur une carte, ce pays couvrirait en partie ou la totalité des pays suivants. L'Iran, l'Irak, le Liban, la Turquie et la Syrie. un immense pays, un immense territoire. Et la capitale s'appelait Ninive. Et Ninive, figurez-vous, c'est une des toutes premières villes mentionnées dans la Bible. La ville a été fondée par un membre de la famille de Noé. Et on lit l'histoire de ça dans Genèse chapitre 10. Je crois bien que c'était Nimrod, l'arrière-petit-fils ou l'arrière-arrière-petit-fils de Noé qui a posé la première pierre dans cette ville. Une ville ancienne. Mais pendant des siècles, des gens se sont moqués de ceux qui croient à la Bible. Parce que pendant des siècles, les gens disaient, mais il n'y a aucune preuve archéologique que la ville de Ninive a vraiment existé. Grâce à des archéologues italiens et danois, dans leurs fouilles, on a découvert que la ville de Ninive a bel et bien existé. Et on a découvert que la ville de Ninive était une grande ville, c'est ce qui est marqué ici, une ville grande, une ville immense. On a découvert que c'était une ville qui était presque ronde. Et la circonférence de la muraille autour de la ville faisait 100 kilomètres. Alors, si vous voulez savoir le temps, la distance de A à B, de l'est à l'ouest, il faut diviser 100 par pi. Alors, pi, c'est 3,14. Et si je calcule dans ma tête, ça fait un diamètre de 31 kilomètres et 447 mètres, grosso modo. Calcul de tête, grâce à une calculatrice, bien sûr. En tout cas, une grande ville, 30 kilomètres de long et de large. Et Dieu a dit, va dans cette ville. Et des archéologues nous ont dit aussi que les murailles étaient tellement larges que 3 chars pouvaient voyager côte à côte sur la muraille. Ils ont trouvé plein de choses, dont une éclipse totale. Le 15 juin 763 avant Jésus-Christ. Et aussi, ils ont découvert qu'il y avait eu des famines dans le pays, juste avant que Jonas arrive. Alors, je me poser la question, mais est-ce que des catastrophes comme des années de famine, et puis une éclipse totale, est-ce que ça n'a pas préparé le cœur de ces gens superstitieux pour l'arrivée de Jonas ? Pour leur parler du Dieu du ciel et de la terre et de la mer. Vous savez, parfois Dieu utilise des catastrophes, des drames, des épreuves pour préparer un cœur pour recevoir son message. On voit ça chez des non-chrétiens. On voit ça parfois chez des chrétiens qui vivent des moments difficiles. En tout cas, revenons donc à cette ville. C'était une ville où les habitants n'étaient pas des enfants de cœur. C'était une ville sanguinaire, cruelle, et beaucoup de crimes se faisaient dans cette ville. Et je vous en passe les détails, mais Monsieur Guillotin n'a rien inventé, parce que la guillotine existait à l'époque. Et ils ont décapité les têtes de leurs ennemis, après avoir arraché leurs doigts, leur nez et leurs lèvres. Pas très joli. Une ville des gens qui étaient vraiment pas intéressants. Et ce n'est pas le genre d'endroit où on enverrait nos enfants de l'école du dimanche pour une sortie un dimanche matin. Et si l'Église décidait de faire ça, je m'y opposerais fortement, parce que je n'aimerais pas que mes enfants aillent dans une ville comme la ville de Ninive. Donc on peut comprendre la réticence de Jonas. Mais si je vais là-bas, ah ben on va me couper la tête. Et puis avec son passeport israélien, il ne serait pas le bienvenu dans une ville comme Ninive. Des conquérants impitoyables qui ne méritaient pas la grâce de Dieu. D'ailleurs, un autre prophète dans l'Ancien Testament parle de la ville de Ninive. Et il dit, malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence, qui ne cesse de se livrer au pillage. Nahum 3, verset 1. Nahum est encore un autre petit prophète que je vous encourage à découvrir ou à redécouvrir. Ces gens-là ne méritaient pas la grâce de Dieu. Et c'est un peu le raisonnement de Jonas. Mais pourquoi aller là-bas, Seigneur? Ils sont méchants. Ils sont mauvais. Ils ne méritent pas ta grâce. Les crimes, leurs crimes contre l'humanité montent jusqu'au ciel. Seigneur, pourquoi leur parler de ton amour? Eh bien, on peut se poser la question, est-ce qu'ils vont mériter la grâce de Dieu, oui ou non? Est-ce que Jonas méritait la grâce de Dieu? Est-ce que Jonas méritait d'être appelé une fois et puis une deuxième fois? Bien sûr que non. Personne ne mérite la grâce. Sinon, la grâce ne serait pas la grâce. Parce que c'est justement quelque chose qui est immérité. Nous devons constamment, constamment remercier le Seigneur pour sa grâce envers nous, envers notre famille, envers le pays où on habite, le continent d'où on vient. On a besoin de remercier Dieu pour sa grâce envers nous parce que Dieu est riche en grâce, lent à la colère. Henri Guérec, je me demande si quelqu'un ici a entendu parler de cet homme, c'était un Américain d'origine allemande. Il parlait couramment la langue de Goethe. Les dates marquées là-haut, c'était une période d'une année. Et pendant cette année-là, Guérec, qui était aumônier militaire, chrétien convaincu, pendant cette période de novembre 45 à novembre 46, il était à Nuremberg pendant le tribunal des nazis, des criminels de guerre. Et il était envoyé là-bas, puisqu'il avait la langue, pour s'entretenir avec ces hommes, ces criminels qui avaient fait mourir des milliers, sinon des millions de personnes. Il était critiqué. On lui dit, mais tu ne devrais pas passer du temps et perdre du temps avec des criminels nazis. Il ne faut pas. Il a dit, ben, ces gens-là, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de connaître l'Évangile avant la peine de mort. Et il relate dans son témoignage qu'il y avait des criminels de guerre qui ne voulaient rien savoir de Dieu, qui ne voulaient pas recevoir Henri. D'autres l'ont reçu, se sentaient tellement coupables qu'ils ont mis fin à leur jour. D'autres, quelques-uns, ont écouté la parole et se sont convertis avant la condamnation à mort. Si je raconte cette histoire, c'est juste pour nous rappeler que les criminels nazis ne méritaient pas la grâce de Dieu. Les Ninivites, il y a 2700 ans, ne méritaient pas la grâce de Dieu. Et les gens dans l'église de Rue-Sonora ce matin, nous ne méritons pas la grâce de Dieu. La grâce et son amour immérité et gratuit. Avant d'en finir avec la ville de Ninive, j'ai dit l'autre jour que Ninive, ça n'existe plus aujourd'hui, bien que là où était Ninive, il y a une ville dont on parle tous les jours aux infos. Mossoul. Et jusqu'à il y a une dizaine d'années, la tombe de Jonas, soi-disant, se trouvait à Mossoul, mais était démolie par des soldats de l'État islamique. Et aujourd'hui, comme vous savez, il y a des crimes et des atrocités de toutes sortes qui se font dans cette ville. Comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La roue tourne, mais l'homme est tout à fait capable du pire. La ville de Ninive. Maintenant, pensons à la prédication à Ninive. Dieu lui a dit de monter au nord, Ninive, et il a décidé d'aller à Jaffa ou Joppé pour aller en Espagne en vacances. Enfin, il monte à Ninive, et entre le port et Ninive, c'était à peu près 750 kilomètres. Alors bien sûr, vous pouvez imaginer que la SNCF faisait grève ce jour-là. La ligne TGV n'avait pas encore été inaugurée par le président de la République, donc il a dû y aller à pied. On calcule à peu près un mois de marche. Mais c'est bien, parce que ça lui a permis de préparer ses prédications. Il faut du temps pour préparer une prédication, une présidence de culte. Donc, il y va et il prêche. Est-ce que vous avez remarqué sa prédication? Est-ce que vous avez remarqué s'il y a une introduction, point 1, point 2, point 3, et puis une conclusion? Il n'y a pas tout ça. Sa prédication se trouve au verset 4. Et encore, la moitié du verset 4. Dans 42 jours, Ninive sera détruite. Il a prêché ça. J'imagine qu'il a élaboré un peu. Mais il a prêché ça pendant un certain temps. 40 jours. Peut-être le lendemain, il a dit, dans 39 jours, Ninive sera détruite. La semaine après, dans 32 jours, Ninive sera détruite. Quel message d'évangélisation! Et est-ce que vous avez remarqué où il prêchait? Dans une salle évangélique? Dans une salle municipale louée par la mairie? Au zénith de Ninive? Il prêchait en pleine rue. Pas besoin d'un arrêté préfectoral, pas besoin d'une carte de colporteur. Il prêchait. Et les gens l'écoutaient. Et les gens ont cru. C'est ça qui est à la fois remarquable, incroyable et merveilleux. Il prêche le jugement et les gens croient. Et dans cette phrase qui résume ce message, je vois à la fois la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les carottes sont cuites. Ou, pour dire autrement, le jugement est décidé. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Les Ninivites seront sévèrement jugés. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va se passer dans 6 semaines. Ce qui sous-entend, peut-être, il y a moyen d'échapper au jugement mérité, juste, de la part de l'Éternel. Et bien sûr, il y a moyen d'échapper, parce que Dieu, comme je disais, est riche en grâce et en bonté. Et ses promesses, tout comme ses menaces, sont conditionnelles. Et Dieu revient sur cette menace, et on verra ça dans quelques minutes. La prédication de Jonas à Ninive. Alors, quelles étaient les réactions des Ninivites? Eh bien, ils crurent à Dieu. Ils écoutent le messager de Dieu et ils croient Dieu. Intéressant. Ils croient Dieu parce que Dieu parle par son messager. Et il y a un réveil sans précédent. Toute la ville s'est tournée vers le Seigneur. On dirait, tout le monde s'est converti. C'est du jamais vu. Ni avant, et peut-être, je crois, presque ni après. Toute la ville s'est convertie. Même le roi, les grands, les petits, se tournent vers Dieu. Et même le conseil municipal, le roi, il promulgue un édit royal en disant, jeûne, prions, jeûnons. On va annuler la fête du 14 juillet. On va annuler la fête de la musique. Aucune festivité. Jeûnez, priez, repentez-vous. D'ailleurs, dans les propos du roi qui nous sont relatés au verset 7, 8 et 9, il développe, il élabore la prédication de Jonas. Il parle de la repentance. Il dit, il faut renoncer à notre mauvaise façon de vivre. Il faut renoncer à ma mauvaise voie. Il prêche la repentance. On dirait que le roi et le peuple, ils ont une prise de conscience. On a offensé Dieu. On a péché contre Dieu. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Et il décide de se repentir et de changer de vie. Dans ce que nous voyons dans la ville de Ninive, on voit qu'il y a une révélation. Dieu s'est révélé à leur cœur. Il y a eu une conviction, conviction des péchés. Jésus a dit dans Jean 16, 8, le Saint-Esprit convaincra le monde du péché. Et ils étaient convaincus dans leur cœur, nous sommes pécheurs. Et au lieu de déprimer, eh bien, ils viennent à Dieu par la repentance et par la foi. Révélation, conviction, repentance et foi. C'est formidable quand on voit quelqu'un qui se repent vraiment de ses péchés. J'ai dit la semaine dernière, et je vais le répéter aujourd'hui, la repentance consiste en un changement d'attitude. D'ailleurs, dans la Bible, second 21, le mot repentance n'existe pas. C'est toujours marqué « changer d'attitude ». Et pour moi, c'est un peu dommage, parce que le mot repentance est un mot qui est assez fort. Mais la repentance, c'est un changement d'attitude en quatre directions. Quand quelqu'un se repent, il change d'attitude vis-à-vis de son péché, parce qu'il sait qu'il est coupable. Il change d'attitude vis-à-vis de Dieu, parce qu'il apprend que Dieu l'aime, que Dieu est prêt à pardonner. Il change d'attitude vis-à-vis de lui-même, parce qu'il sait, mais je suis coupable, condamnable. Il change d'attitude vis-à-vis des autres. Parce que quand on se repent, quand on se convertit, eh bien, on change d'attitude parce qu'on commence à aimer les autres. On commence à se rendre compte, mais tout le monde est pécheur. Et on ne peut pas indiquer des doigts un tel ou un tel, parce qu'on est tous dans le même bain. Tous sont pécheurs. Et c'est formidable quand quelqu'un se repent véritablement et change d'attitude et change d'avis par rapport à Dieu, par rapport à lui-même, par rapport au péché, par rapport aux autres. Et c'était un réveil véritable. Et j'en prends comme témoin le Seigneur Jésus. Parce que dans Luc 11, Jésus parle de ce qui s'est passé dans le livre de Jonas. Et Jésus dit même que les Ninivites seront à ses côtés le jour du jugement. Vous vous rendez compte? Jésus authentifie le témoignage de Jonas et ce livre. Donc, une véritable repentance, et c'est formidable de voir que ces gens-là se sont convertis. Si vous voulez la suite de l'histoire, la génération suivante n'avait pas la même foi que cette génération-là. Et Dieu a recommencé à faire des menaces à Ninive. Et à peu près 150 ans après Jonas, la ville de Ninive a été envahie et les gens ont été jugés par Dieu parce qu'ils n'avaient pas la même foi que leurs ancêtres. Et c'est ça qui est bon à se rappeler. Nous pouvons avoir la foi, nous pouvons être chrétiens, mais ce n'est pas garanti que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants se convertissent. D'où l'importance de prier pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour qu'eux aussi puissent se convertir. Numéro 4, la réponse de Dieu. Comment réagit le Seigneur quand il, suite à la repentance, suite au changement de cœur? Eh bien, Dieu voit ce qui se passe. Et non seulement voit-il, mais il agit. Dieu voit toujours ce qui se passe dans ce monde, dans cette ville, dans cette église, dans nos familles. Il voit tout. Chez moi ce midi, chez vous ce midi, il voit tout. Dieu voit ce qui s'est passé et Dieu a agi. Il a décidé de ne pas envoyer le jugement, mais il a envoyé sa grâce, son pardon. Comme je disais, ces menaces sont conditionnelles. Son amour, par contre, est inconditionnel. Il aimait ce peuple-là et il a agi. Et vous savez, du début jusqu'à la fin de la Bible, nous voyons ces deux principes. Dieu voit, Dieu agit. Que ce soit à l'époque du jardin d'Éden dans la Genèse, ou que ce soit dans les Évangiles, on voit que Dieu voit ce qui se passe. Et Dieu agit tôt ou tard. Parfois c'est tard. Parfois c'est vite. Parfois on doit attendre. Mais Dieu voit ce que nous faisons. Il voit le mal que nous faisons. Il voit le bien que nous faisons. Il voit le mal que nous pensons. Il voit le mal que nous... Il voit le bien que nous pensons. Il voit tout. Et si nous voulons vraiment vivre dans l'obéissance au Seigneur, restons toujours conscients que tout ce que nous faisons, tout ce qui se passe dans le cœur et dans la tête, Dieu en est conscient. Et Dieu en tiendra toujours compte, d'une manière ou d'une autre. Il voit le changement de cœur, il en tient compte. C'est pour ça qu'il a envoyé son pardon. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, d'ailleurs c'est un chant qu'on a chanté dimanche dernier au culte, Dieu dit, « Si mon peuple, ce qui est d'invoquer mon nom, s'humilie, prie et me cherche, j'écouterai, s'il renonce à ses mauvaises voies, j'écouterai du haut du ciel et je pardonnerai ses péchés. » Prier, s'humilier, chercher et renoncer à ses mauvaises voies. Dieu voit quand on agit comme cela et Dieu pardonne. Une des dernières choses que Jonas a dit dans le ventre du poisson, c'est « Le salut vient de l'Éternel. » Et il savait qu'il n'y avait pas de salut en aucun autre. Comme dit les apôtres dans Actes 4, il n'y a aucun autre nom donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés, sauf Jésus. Il n'y a pas de salut ailleurs. Et les Ninivites étaient convaincus. Oui, il fallait se convertir, se repentir pour éviter le jugement. Par contre, tous ceux qui ne se repentent pas, qui ne se convertissent pas, un jour, ils seront face au juge juste de l'univers. Je conclue en deux temps. D'abord, le premier verset, il est écrit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. » Le tout premier verset du livre de Jonas, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. » Dieu est un Dieu qui parle. Il y a une quarantaine d'années, lorsqu'il était interdit d'imprimer des Bibles en Union soviétique, un pasteur a pu avoir une Bible pour toute son église. Donc vous savez, à l'époque, quand il y avait une Bible pour 100 personnes, le pasteur, les anciens, déchiraient chaque page de la Bible pour donner. Et puis, ils disaient aux gens, vous copiez chez vous, vous revenez dimanche prochain, je vous donne une autre page. Vous copiez chez vous, vous revenez dimanche prochain, je vous donne une autre page. C'est comme ça qu'ils avaient une Bible pour toute une église. Et un jour, un pasteur en Union soviétique a reçu une Bible. Il a enlevé plusieurs pages, il les a données. Et puis, quelques jours plus tard, il a croisé un chrétien en ville. Et il a dit au chrétien, au frère, « Alors, est-ce que ça va la page de la Bible que tu as eue ?» Et le frère a dit, « Ah, tu m'as donné une page dans le livre de Jérémie. » Et le pasteur a dit, « Oh, quelle erreur ! J'aurais jamais dû te donner Jérémie. Jérémie est toujours en train de se lamenter. Il était toujours déprimé. Il prêchait l'évangile et personne ne voulait croire. Non, il faut que je te donne un passage encourageant. Si je te donnais un texte, une page de l'évangile de Matthieu. » Et ce brave chrétien a dit, « Ah non, je ne veux surtout pas changer de page. » Et le pasteur a dit, « Mais pourquoi ?» Il dit, « Parce que plusieurs fois, on lit « L'Éternel s'adressa à Jérémie. » Et il dit, mais s'il parlait à Jérémie, eh bien Dieu peut me parler à moi, même par les pages de Jérémie. Un chrétien qui savait que Dieu parlait. Et un chrétien qui voulait se mettre à l'écoute du Dieu qui parle. Est-ce que c'est notre attitude? Un des livres qui est le moins lu dans le monde évangélique, dans la Bible, c'est le livre d'Ézéchiel. Mais dans ce livre, il est frappant de voir combien de dizaines de fois il est écrit « L'Éternel s'adressa à Ézéchiel ». Je les ai soulignés il y a quelque temps. C'est intéressant. Ça, c'est la première partie de ma conclusion. La deuxième partie concerne les conversions. Ou une conversion. Quand une ville se convertit, c'est formidable. Quand une tribu se convertit, c'est formidable. Quand une famille se convertit, c'est formidable. Quand une personne se convertit, c'est formidable. Vous êtes d'accord? Bon, ça me soulage. Edward Kimball était responsable d'un groupe de jeunes dans les années 1840-50 aux USA, aux États-Unis. Il voulait que tous les jeunes de son groupe se convertissent. Mais il n'y a pas grand monde qui voulait se convertir. Donc il a décidé d'aller rendre visite à chaque membre de son groupe de jeunes. Et puis, il était un peu déprimé parce que les jeunes voulaient bien l'écouter, le recevoir, mais pas se convertir. Il est allé voir un jeune en particulier qui travaillait dans un magasin de chaussures. Donc il prend du temps, il explique au milieu des boîtes de chaussures l'évangile à ce jeune. Et ce jeune qui s'appelait Dwight, il n'était pas très chaud. Il ne voulait pas se convertir parce qu'il savait que ça allait coûter quelque chose de se donner à Christ en tant que jeune homme. Édouard sort de la boutique découragé, mais il ne savait pas que le soir même, Dwight a été convaincu dans son cœur de ses péchés. Et Dwight s'est converti. Alors Dwight, certains le connaissent sous le nom D.L. Moody. Dwight L. Moody. Il est devenu évangéliste. Et il est allé prêcher à droite et gauche. Il y a eu des conversions. Et un jour, il était en Angleterre et il a rencontré un Anglais qui s'appelait Meyer. Et Dwight a dit, tiens, tu devrais venir prêcher dans nos églises aux États-Unis. Donc Meyer part aux États-Unis, il prêche à droite et à gauche, et lui, il ne prêchait pas trop l'évangile, mais il prêchait la consécration à Dieu. Il voulait que les chrétiens se donnent davantage à Dieu. Et un jour, dans une réunion, il a dit ceci, je cite, « Si vous n'êtes pas prêt à tout abandonner pour le Seigneur, ou au Seigneur, est-ce que vous serez prêt à lui demander de vous rendre prêt ?» Je répète ça. « Est-ce que vous êtes prêt à tout donner au Seigneur ? Sinon, est-ce que vous serez prêt à lui demander de vous rendre prêt ?» Eh bien, dans cette foule, il y avait un jeune homme, G. Wilbur Chapman. Il a dit, « Seigneur, je veux que tu m'aides à être prêt à tout abandonner entre tes mains. » Dieu l'a aidé à être dispo. Et cet homme-là a commencé à témoigner. Il a commencé à prêcher l'évangile. Et un jour, dans une prédication, il y avait un jeune homme connu, joueur de baseball américain, qui s'appelait Billy Sunday. Sunday, c'est anglais pour dimanche. Billy Sunday. Billy Sunday s'est converti. Billy Sunday a commencé à témoigner. Il a commencé à prêcher l'évangile. Et il était invité à droite et à gauche, et surtout en Caroline du Sud, Caroline du Nord, encore aux États-Unis. Et il y a des jeunes qui se convertissent et qui décident, mais après Billy Sunday, il faut inviter quelqu'un d'autre. Donc, ils ont invité un monsieur qui s'appelait Mordecai Ham. Et Ham, c'est anglais pour jambon. Ces Américains ont des drôles de noms. Hein. On a un frère américain avec nous ce matin, je ne sais pas quel est son nom de famille, mais bon. Mordecai Ham revient, il vient en Caroline du Nord pour prêcher l'évangile. Et après plusieurs soirées, ça ne donnait rien. Donc, il a commencé à se lamenter un peu, comme Jérémie. Et puis, il a dit un soir, « Seigneur, je te prie de nous permettre d'avoir une nouvelle Pentecôte. Que quelque chose se passe demain dans les réunions. Que ton esprit se manifeste parmi nous. » Le lendemain, il y avait un lycéen qui est venu à la réunion un peu à contre-cœur. Il est venu et ce lycéen s'est converti. Donc là, on est en 1934, donc presque un siècle après Kimball, d'accord? Vous voyez la chaîne? Les maillons de la chaîne? Mordecai Ham prêche, un lycéen se convertit, il s'appelait Billy Graham. Billy Graham devient évangéliste, il prêche à droite et à gauche. En 1947, il est arrivé en Écosse pour la toute première fois. Et puis, il y avait des gens qui sont venus l'écouter dans une grande salle qui n'existe plus. Et dans la foule, il y avait une jeune femme, 22 ans, 23 ans, peut-être 22 ans, qui venait d'un milieu arrière-plan et on va dire, pauvre. Son père, alcoolique, elle vivait avec sa grande sœur et la vie était assez compliquée. Mais cette jeune femme s'est convertie. Une femme. Quelques temps plus tard, elle a rencontré un jeune homme. Ils se sont mariés. Et cette jeune femme a eu 3 enfants. Et tous les jours, à genoux, devant son lit, tous les matins, elle priait pour ses 3 enfants, pour son mari, pour sa famille, son père alcoolique. Et grâce à ses prières en partie, un de ses fils s'est converti. Ce fils-là s'appelle David Cameron Sutherland. Tout a commencé il y a 150 ans. On ne peut jamais mesurer ce que Dieu peut faire. Les prières d'une maman, les prières d'un papa. Dieu n'a pas exaucé toutes les prières de cette femme-là. Elle est décédée il y a 35 ans maintenant. Mais une conversion peut mener à beaucoup de choses. Alors prions pour des conversions. Remercions Dieu pour notre conversion, si on est converti. Si vous n'êtes pas converti, je cite Jésus, convertissez-vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.